Hello and welcome to the Lobster Podcast, conversations out of our comfort zone. My name is Alessandro. I'm a driven founder, an enthusiastic changemaker, a passionate career coach, and I love challenges. In my life, I discovered that my moments when I'm completely in flow are when I'm kitesurfing in the ocean, when I'm breathing during yoga, and most significantly, when I'm engaged in inspiring conversations with people. I also get way too excited about dogs. So every now and then, I'm also that guy cuddling strangers' dogs on the street.
Bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy!
Allô, 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 allô! Bienvenue au Lobster 120.0! Vous l'avez entendu dans l'intro, on n'est plus seul! Il existe maintenant un autre podcast du Lobster. C'est The Lobster Podcast qui lui parle de développement personnel. Et c'est bien, j'ai lu la page d'Alessandro de Giacomo qui vient de débuter son Lobster. Et lui, il utilise le nom Lobster vraiment...
Dans le sens du mot homard.
Et il a fait des recherches, voici ce qu'il en dit.
Saviez-vous que les homards changent leur carapace 25 fois dans leurs 7 premières années de vie? Les changements sont un challenge. Le changement est souvent un challenge. Comme les homards, quand ces changements arrivent, on peut se sentir sous pression et en dehors de notre zone de confort. Donc, dans ce podcast, The Lobster, nous aurons des conversations avec des amis en dehors de notre zone de confort. Sortons de notre carapace ensemble grâce au Lobster.
Moi, dans le lobster, c'est pas des homards, mais c'est plutôt ce gros champignon orange qui se nomme le lobster et que je cueille autour de notre chalet pour le manger. Donc, avec moi, c'est pas sortons de notre carapace, mais plutôt sortons du chalet pour aller cueillir des champignons. Mais, je suis bien content d'être tombé sur Alessandro. Il a l'air gentil. Grâce à lui, grosse nouvelle qui vient avec ça. Comme lui vient de débuter, eh bien, notre Lobster à nous est numéro 1 parmi tous les podcasts qui se nomment Le Lobster. On est premier sur deux. Et nous, on est rendu au Lobster 120. 120, c'est du gros chiffre. 120, c'est quoi? Eh bien, c'est la factorielle de 5. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça égale quoi? Ça égale 120. Ça, c'est une factorielle.
Yeah, baby! Yeah.
120, c'est quoi? Ben, c'est un format de pellicule photographique intermédiaire introduit par Kodak en 1901 et toujours en usage actuellement. En astrologie... Eh bien, en astrologie, lorsque deux planètes dans le thème d'une personne sont à 120 degrés l'une de l'autre, ceci est appelé un trine. Ceci est supposé apporter de la chance dans la vie de la personne. Donc, le lobster... 120, il vous apporte de la chance. Bon, ici, j'ai quand même des doutes. Pour moi, un trine, ça ressemble plus à une créature bizarre, un genre de ver de terre qu'on te glisserait dans l'oreille pour te rendre fou. Il me semble même que c'est dans un des deux Conan qu'on glisse un genre de bibitte comme ça dans l'oreille de Conan. En tout cas, donc c'est ça, ça commence comme ça. C'est Lobster 120.0 qui annonce aussi le début de mes vacances! Donc, de quoi on parle dans ce Lobster 120.0? Eh bien, cette semaine, ça va être un tout aussi biscornu que cette mise en bouche. C'est comme un épisode sur les choses un peu paranormales. Bon, là, je dis paranormal, c'est peut-être pas le bon mot, plutôt les théories un peu loufoques. Cette semaine, je veux poser les bases de certaines théories avec vous et vérifier si ça se peut. Voici un exemple des théories là, qui rapidement me viennent en tête. La première, il y a des années, mon frère a été remplacé par un homme boue lors d'un événement malheureux. Ensuite, je veux parler de l'inflation sur le coût des billets extraterrestres pour ceux qui visitent la Terre dans le cadre de croisières paranormales. Aussi, on parle de l'un des secrets conservés dans la bibliothèque du Vatican, le livre de Pachamama. Aussi, Léonard de Vinci et Mona Lisa, voyageurs du temps? On se pose la question. Donc, voilà, la table est mise. C'est le genre de choses qu'on parle cette semaine. Si vous n'aimez pas, mieux vaut vous sauver maintenant et syntoniser vaticannews.va, car nous, ça risque de dérailler fort cette semaine. C'est pour ça que je suggère aux plus sensibles le podcast catholique sur le site du Vatican. On en écoute un petit bout, c'est magnifique.
Du temps.
Les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, partagent un même socle dogmatique. Il fut défini au début du christianisme lors des conciles dits écuméniques, car il réunissait tous les évêques de la chrétienté d'alors. Au nombre de 4 ou 7, selon ceux qui ont été retenus, ils sont le patrimoine commun de toutes les églises, ou la source de leur division.
Voilà, la table est mise. On écoute un petit peu de musique psychodélique sortie directement des traboules et on se lance ensuite dans les théories un peu loufoques. Donc, je vous souhaite un bon Lobster avec Freddy Boy et
Alessandro. And this is the Lobster Podcast.
Bon. Avant de vous parler de mes théories un peu loufoques, petit retour sur le Lobster 119.0. Je vous avais parlé dans ce Lobster de mon ami Martin qui avait gagné le concours de Mario Bros dans le temps. Eh bien, il m'a écrit ceci.
Petit update pour ton Lobster. Je viens d'aller vérifier mes scores. Le concours, c'était de faire le plus de points possible en 3 minutes. Champion régional avec 233 550 points. Puis, j'ai terminé deuxième au Québec avec un score de 263 400.
Voilà! Martin tenait à vous le préciser, donc si vous voulez essayer de battre Martin à Mario Bros en 3 minutes, vous devez faire plus que 263 400 points. Pour lui, c'est un événement marquant dans sa vie. Sa petite copine de l'époque, Liz, avait été très impressionnée, si je me souviens bien. Donc, l'update est fait. Et maintenant, avant tout, avant de débuter avec mes sujets, il faut que je vous parle un peu de trous noirs. Et non, on ne parle pas de nains. Un trou noir, c'est quoi?
Si les trous noirs sont parmi les objets les plus fascinants de notre univers, ils sont également les plus mystérieux. Un trou noir est une zone dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière, l'entité la plus rapide connue dans notre univers, ne peut s'en échapper. La frontière d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Il s'agit d'un point de non-retour au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Quand quelque chose traverse l'horizon des événements, il s'effondre dans la singularité du trou noir. Cette singularité est un point infiniment petit et dense où l'espace, le temps et les lois de la physique ne s'appliquent plus. Les scientifiques ont théorisé plusieurs types de trous noirs différents, les stellaires et les supermassifs étant les plus communs. Les trous noirs stellaires se forment lorsque des étoiles massives meurent et s'écroulent. Ils ont une masse 10 à 20 fois supérieure à celle de notre Soleil et sont éparpillés à travers tout l'univers. Il pourrait y avoir des millions de ces trous noirs stellaires rien que dans la Voie lactée. En comparaison, les trous noirs supermassifs sont des géants, mesurant des millions voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Les scientifiques ne peuvent que supposer comment ils se forment, mais nous savons qu'ils existent au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre. Sagittaire A, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, a une masse d'environ 4 millions de soleils et a un diamètre équivalent à la distance entre la Terre et notre Soleil. Étant donné que les trous noirs sont invisibles, le seul moyen pour les scientifiques de les détecter et de les étudier est d'observer leur effet sur la matière à proximité. Cela inclut les disques d'accrétion, disques composés de particules qui se forment lorsque les gaz et la poussière tombent vers un trou noir, ainsi que les quasars, jets de particules qui explosent depuis des trous noirs supermassifs. Les trous noirs sont restés inconnus jusqu'au XXe siècle. En 1916, en utilisant la théorie de la relativité générale d'Einstein, un physicien allemand nommé Karl Schwarzschild a pu calculer que toute masse peut devenir un trou noir si elle est suffisamment comprimée. Mais ce n'est qu'en 1971 que la théorie est devenue réalité. Des astronomes qui étudiaient la constellation du Cygne ont découvert le premier trou noir. Un nombre incalculable de trous noirs sont dispersés à travers l'univers, déformant constamment l'espace et le temps, altérant des galaxies entières, et inspirant sans cesse aussi bien les scientifiques que notre imaginaire.
Que notre imaginaire. Et oui. Donc, suivant cette explication, qu'est-ce qu'on peut conclure? Moi, je conclue que je ne sais pas. Qu'on ne sait pas, on n'est pas capable de tout expliquer. Un trou noir, c'est plutôt incompréhensible et c'est surtout inexplicable. Aucun scientifique n'est capable de tout expliquer ce qui entoure les trous noirs. Ils ont beau se creuser les méninges, ils n'expliquent pas tout. Plein de questions restent en suspens. Où va la matière qui l'aspire? On ne sait pas. Est-ce qu'un trou noir n'est tout simplement qu'un être suprême qui s'amuse avec un jouet aspirateur? C'est-tu une autre dimension derrière le trou noir? C'est-tu simplement la bouche d'un nain cosmique? On ne sait pas. Quand on parle de nain, il y a toujours des choses inexplicables. Donc, partant de là, du fait qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui existent, car oui, ça existe des trous noirs, on a eu dernièrement la première photo d'un trou noir, qui a été produite grâce au radiotélescope virtuel EHT. Donc, partant de là, du fait que les trous noirs existent, mais qu'on ne peut pas tout expliquer, que c'est rempli d'inexplicables existants, alors je dis que mes théories, même si elles vous paraissent loufoques, pourraient s'expliquer par des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, si on assume que des choses inexplicables existent, et par la fin même se peuvent, mais restent inexplicables, donc, si on entre ça dans une équation compliquée de mathématiques avec plein de variables qu'on calcule l'intégrale et qu'on résout...
Bien sûr, ici, je vous passe les détails de mon calcul. Si vous voulez les voir, je vous les montrerai sur demain.
Donc, suivant ce long calcul que j'ai fait, que j'ai résolu, et qui donne 42 comme réponse, alors tout s'explique.
La réponse à la grande question... de la vie, de l'univers et de tout le reste est... 42. Ah oui?
Donc voilà, c'est par ma réflexion sur les trous noirs et mon amour des nains que j'en suis arrivé à ce théorème de l'inexplicable résolu. Et oui, c'est moi qui l'ai inventé pour ce Lobster 120.0, le théorème de l'inexplicable résolu. Ici, je voudrais répondre tout de suite à ceux qui n'aiment pas le nom de mon théorème. Le théorème de l'inexplicable résolu. Ouais, ça va être chiant à retenir à l'école. Et je veux pas être célèbre et simple comme Céline grâce à un théorème dont le nom schlingue un petit peu. Donc, je vais le renommer tout de suite. Je vais donner un plus beau nom à ce théorème que j'ai inventé en quelques minutes. Je veux que ça soit fait quand même un peu facile à retenir, donc grâce à mon théorème du nain barbu, tout peut s'expliquer. Voilà, théorème du nain barbu. C'est un peu comme la glotte. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je vous parle de la glotte, eh bien, vous tombez comme dans un club select qui seul connaît de quoi vous parlez. Et là, vous avez l'air énigmatique et intelligent. Car oui, je pense que les gens énigmatiques ont l'air intelligents. Style le doc dans Retour vers le futur. Lui, il avait l'air énigmatique. Mais bon, je m'égare un peu comme toujours. Donc, tout ça pour dire qu'on va être pour un certain temps, seulement une centaine, moi et vous, vous et moi, à connaître le théorème du nain barbu qui explique l'inexplicable. Donc, par ce théorème, je vais maintenant pouvoir vous expliquer l'événement tragique qui a fait que mon frère actuel, ben, j'en ai juste un, mais c'est pas vraiment lui, c'est un homme beau. Bref, parlons de ma première théorie.
Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière.
Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait?
Toutes les questions recevront une réponse. Filme,
d'accord.
Et on commence.
Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute?
C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le temps, allez!
Ça y est, je suis prêt.
Mesdames, messieurs, je me présente, Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein. En voiture. C'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. Attache ta ceinture. Voilà. Tiens, approche-toi.
Hey, voilà, voilà.
Vous pouvez constater que le chrono d'Einstein est parfaitement synchronisé avec le mien. C'est bon?
Ouais, ça y est, ça y est.
Bien. Bon voyage, Einstein. Attention à ta tête.
Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture?
Attends, regarde.
Ah ouais. Oh, pardon. Ça y est. Ah. Ça alors?
À moi, la voiture!
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Ça, c'est une autre belle théorie aussi, le voyage dans le temps. Mais c'est pas de celle-là qu'on parle maintenant. Il y a longtemps, je devais avoir entre 11 et 13 ans, ce qui donnait entre 4 et 6 ans d'âge à mon frère. Mon vrai frère, celui que j'ai connu avant l'homme beau. Donc, on était chez mes grands-parents à Périgny. C'est le même coin que mon chalet actuel, qui est construit sur un lot de terre que mon père a hérité de son père. Bref, on était parti en forêt, assez loin, sur le dessus d'une montagne. On marchait en forêt, je sais plus pourquoi, peut-être le temps de la chasse, de la pêche, ou juste s'amuser en forêt, je sais pas. Les hommes debout ont probablement modifié ma mémoire pour que ça reste flou. Mais, j'ai une bonne idée. Je vais appeler mon père voir si lui s'en souvient. Vu que lui était adulte au moment du drame, peut-être que sa mémoire est mieux conservée. On l'appelle. Salut, ça va?
Oui, ça va bien, toi?
Ben oui, votre visite, es-tu arrivé au chalet?
Non, pas encore, il devait travailler pour moi après-midi, c'était jeudi.
Ok, j'ai essayé de l'appeler, oui, et ça répondait pas.
Oui, il devait finir, ben absolument, il finit à 3h30.
Ok.
Ouais, le vendredi, ben je pense qu'il finit à midi, hein?
Ah, ok, puis il descend au chalet demain?
Il descend aujourd'hui.
Ah, oh, il descend aujourd'hui, ok.
Oui, il a dit qu'il descendait aujourd'hui.
OK.
Il a eu de la pluie toute la journée?
Oui, nous autres, il mouille depuis ce matin, là.
Oui, on regarde ça à TV. Nous autres, il y a eu une petite orage à peu près de 5 minutes avant midi, avant que je t'appelle, là.
Ouais.
Et on n'a pas eu de pluie de l'après-midi de la journée.
Ah, c'est le fun. Hey,
oui, c'est le fun. Le temps était bon, par exemple, les bébites étaient malines.
Oui, ah, il y a du moustique.
Ah, il est chaud, mais j'ai travaillé dehors, on a travaillé dans le jardin, ma mère elle a fait du ménage.
Non, c'est le fun.
Ouais. Ils vont arriver pour moi à 3h, ils ont dû finir à 3h30, ils ont dû partir vers 4h30, mais 2h30, 7h30, 8h, ils vont arriver.
Ok, bon, je le rappellerai. D'abord, je voulais poser une question. Tu te souviens-tu quand il était plus jeune, on était allé marcher dans le bois, puis il avait enfilé dans une tourbière? Tu te souviens-tu de ça?
Oui, c'était la chasse à l'orignal, frère.
Ah oui, c'était. On chassait, je me souvenais plus qu'est-ce qu'on faisait. On était sur le dessus de la montagne en arrière du chalet?
Oui, c'est ça. On était aux étangs, en haut du camp à grand-papa, là, aux étangs, ce qui était notre cache, là.
Ouais.
C'était mon oncle Augustin qui venait de tuer une grosse femelle.
OK.
Puis Alexandre était parti marcher. Nous autres, on était après à organiser l'orignal, là.
Ouais.
On avait attendu crier.
OK.
Puis la première chose qu'on a pensé, c'est que c'était un ours.
Ouais.
Puis c'était Alexandre, il se tenait après une petite épinette. Il était dans l'eau juste en dessous des bras.
Ah, OK. Moi, dans ma mémoire, on était avec, puis il avait enfilé, puis tu l'avais ressorti, mais il était tout seul, puis il se promenait, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il était à peu près, ça, pas à 100 pieds de nous autres. Le temps n'est pas grand.
OK.
C'est une mousse, tu sais, tu marches, tu restes en place, tu cales, là.
Oui, c'est ça. Je me souviens que c'était une tourbière, hein.
Oui, c'est ça. Après ça, on l'a rentré, il s'est frit. Bon, moi, je me suis déshabillé, on lui a enlevé son linge, puis on l'a rhabillé avec du linge sec, puis on n'a pas pris le 4 roues pour descendre, on a marché.
Ah, OK, bon.
Ouais, puis il est arrivé, il n'y a rien eu, pas de rhume, rien.
OK, c'est bon, c'est ça.
On était chanceux parce qu'on aurait pu le faire, puis là, au moins, ils avaient le retrouvé.
Ben oui, non, c'est ça. Dans une tourbière de même, on n'aurait même pas su où chercher. Là.
Ben, c'est ça.
Ah, c'est bon, fait que je le rappellerai, je voulais lui demander, lui, qu'est-ce qu'il se souvenait de ça.
Ouais, c'est bon, mais...
C'est bon, salut.
Salut, bonne vacances.
Merci.
Salut.
Bye. C'est quand même drôle, moi j'ai pas tout à fait la même histoire en mémoire. Ouh. Il me manquait des bouts. Et j'ai des images qui concordent pas. Pour moi, on marchait plus ensemble, mon frère et moi. Et il avait complètement disparu dans la tourbière, et c'est mon père qui l'avait sorti de la boue en plongeant sa main dans l'eau. Moi, c'est plus film américain comme souvenir, comme la créature du marais. Mais, théorie que je lance comme ça, c'est peut-être aussi dû simplement au fait que les hommes boue ont choisi de modifier mon souvenir dans ma tête. Car j'ai peut-être vu d'autres choses, j'ai peut-être été témoin de la transformation quand il est tombé dans la boue. Et là, ce que mes parents savent pas, c'est que, dû en grande partie au théorème du nain barbu, mon frère a été remplacé par un homme bou. Ils ont donc élevé un enfant bouette. Les hommes bou, bon, je vous en parle depuis tantôt, sans vraiment vous expliquer c'est quoi. Mais là, c'est le temps. Les hommes bou, c'est pas compliqué, c'est des amas de boue qui, lorsqu'ils sont touchés, sérieux un peu là, bon, c'est sérieux. C'est des amas de boue qui, lorsqu'ils sont touchés par de, par de l'ADN, peu importe le type, peuvent prendre la forme instantanée. Peuvent en prendre la forme instantanée. Oh, ok, on recommence.
Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît! Je suis Axel Follet, commission d'urbanisme de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines.
Bon, les hommes boue, c'est des amas de boue qui, lorsqu'ils sont touchés par de l'ADN, peu importe le type, peuvent en prendre la forme instantanément. On a vu ça en image dans un des Star Trek voyageurs. Ils se transforment en lézard, je crois, dans un des épisodes, en touchant simplement à de la boue. Donc, mon frère est tombé dans le trou, paf! Et, lorsqu'il est repêché, paf! Mon père, il ressort quoi? Paf! Un homme bouette! Non, un enfant bouette, qui deviendra bien sûr plus tard un homme boue. Et depuis ce temps-là, sans le savoir, nous, notre famille, on côtoie un homme boue. Mais là, vous vous demandez pourquoi je sors cette théorie-là. J'ai-tu des preuves de ça? Outre les traces d'homme boue trouvées dans les bobettes de mon frère, j'ai pas de preuves. Non, bien sûr que non, car les hommes boue m'auraient fait disparaître si j'avais des preuves. Ils m'auraient probablement remplacé, en fait, car je jardine beaucoup. Donc, c'est facile de me tendre un piège. Je rempote un plant de tomates, plonge mes mains dans la terre que j'ai arrosée, qui est un peu boueuse, et paf! Je suis aspiré, puis je suis remplacé. Donc, comme je ne peux pas vous donner de preuves pour préserver tout ça, ma propre sécurité, eh bien, je peux quand même vous démontrer, grâce à la théorie de l'absurde, que c'est bien vrai ce que je raconte. Via la théorie de l'absurde, c'est simple. C'est un raisonnement qui permet de démontrer qu'une affirmation est vraie en montrant que son contraire est faux. Ça s'appuie sur la règle logique que si non P est faux, alors P est vrai. Donc, je peux affirmer que mon frère est un homme boue en vous prouvant que l'affirmation « mon frère est un humain » est fausse. Et ça, c'est facile à prouver. C'est quoi un humain? Un être humain, c'est un être vivant, membre de l'espèce humaine. Il se différencie des autres espèces par son mode de déplacement bipède, son langage articulé, ses mains préhensibles et son intelligence développée. C'est ça que je peux lire sur Internet. Donc, oui, mon frère a toutes ces qualités-là. Donc, vous allez me dire que c'est difficile de prouver qu'il n'est pas humain. Mais non, justement! C'est là que le théorème du nez barbu entre dans l'équation. Car grâce à ce théorème qui explique l'inexplicable, je peux simplement affirmer qu'il n'est pas humain sans vous l'expliquer. Car pour moi, c'est de l'inexplicable, donc pas besoin de l'expliquer. Comme les trous noirs. Ça existe et on n'explique pas tout. Oui, on peut prendre une photo, mais ça prouve quoi? Rien. Est-ce que quelqu'un se souvient de la première photo qu'on a prise d'un nain? Non. Et ça prouverait quoi? Donc, qu'est-ce qui s'ensuit de toutes ces déductions que je fais? Et oui, vous avez tout compris. Du fait que je viens de décider d'expliquer que mon frère n'est pas humain via le théorème du nain barbu, je me trouve à prouver par le raisonnement de l'absurde qu'il est un homme boue, vu que j'ai prouvé le contraire. Bon, j'espère ici que j'en ai pas trop perdu. Même moi, je navigue en eau trouble. Bon, et j'espère qu'on n'a pas un exode massif sur Radio Vatican.
Non, monsieur, fratelli et sorelle.
Que fais-je?
Le vaste panorama de toutes les nations du
jeune,
monde.
De tout le continent.
Jamais plus les jeunes contre les
autres. M'attendre à de belles découvertes et à d'enrichissantes rencontres.
Vox Mundi.
Une émission de Radio Vatican.
Présentée par
Xavier Sartre.
Bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Dans le numéro de ce samedi 18 juin, nous parlerons dans notre rubrique « Tous les chemins mènent à l'homme » d'une famille qui chante à l'unisson pour nous inspirer à quelques jours de la rencontre mondiale des familles qui s'ouvre le 22 juin à Rome. La famille Lefèvre, les grands gagnants de la France, un incroyable talent 2020, sont en effet nos invités dans la seconde partie de ce magazine. Mais avant cela, direction l'Afrique qui a été l'un des fils rouges de cette semaine au Vatican. Olivier Bonnel, bonsoir.
Bonsoir Xavier.
Alors ce fil rouge africain commençait dimanche dernier à l'issue de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. François, chose rare, présentait ses excuses aux populations de République démocratique du Congo et du Soudan du Sud en raison du report de son voyage apostolique dans ces pays.
Oui, Bien sûr, c'était complexe mes explications. Bon, j'ai fait appel à deux théorèmes complexes pour confirmer que j'ai un frère qui a été remplacé par un homme boue, et l'un des théorèmes, celui du nain barbu, est totalement nouveau, donc ça peut être difficile à absorber pour vous. Mais si vous prenez le temps d'assimiler le tout, je pense que c'est pas si dur à comprendre. Bon, maintenant, on donne une mini-pause à notre cervelet et au retour, je poursuis avec d'autres théories que le théorème du nain barbu m'ont permis de confirmer. On écoute un peu de musique pour se remettre les idées bien en place.
Shoes, let your hair down, please, man. I'm for you. Take you out on the loose, we'll go downtown, tease, man. I'll adore you. Tonight, there's nothing to do, 'cause when I'm with you, there'll be no controls on what we do. We're wandering heights, we're gonna take flight. I won't let you go. Can you feel me?
Avant de discuter d'une autre de mes théories loufoques, j'ai pris le temps d'appeler mon frère, l'homme boue, pour le confronter. On écoute l'enregistrement et ensuite, je vous livre mon analyse.
I wanna rock. Salut.
Salut, comment ça va?
Oh, t'as pas, je t'entends pas, vas-y, va.
Tu m'entends-tu?
Je vais te mettre ma chemin, non? Là, t'es beau.
Tu m'entends-tu, là?
Oui, oui.
Ça va bien?
Oui, toi.
Ben oui, qu'est-ce que tu fais de beau?
Rien, un matin, on est allé en ville, on a essayé les vélos électriques.
Ah oui?
Puis après ça, qu'est-ce qu'on... Oh, t'es... Ouais, excuse, on est allé manger du smoke meat.
Ah, c'est le fun.
Pas fait grand-chose.
Ouais.
Toi?
Ah, moi, je me suis baigné, j'ai fait ma pelouse, puis là, je suis en train de faire de la poterie. Non, tantôt, je t'appelais parce que je vais enregistrer mon émission, puis je me demandais c'est quoi que tu te souvenais de la tourbière quand t'es tombé dedans. C'est quoi que tu te souviens, toi, de ça?
Tu parles tellement pas naturel, faudrait que tu m'enregistres.
Non, je suis dans le garage.
Moi, je me souviens que j'ai passé en arrière d'un arbre, que j'ai calé.
OK.
Après ça, j'ai sorti mon bras parce que j'étais pas tout renfoncé, puis il y avait une épinette d'à peu près un pied, genre, puis je me suis pogné là-dessus, puis j'ai tiré par rapport à arracher.
Ah, OK. Ben c'est drôle parce que papa, il se souvient de ça aussi, là, que tu te tenais après une épinette, là, je l'ai appelé durant la semaine, là, puis il se souvient de ça, là.
Oui, mais c'est vraiment l'épinette qui m'a sauvé.
Ouais, moi, je me souviens qu'on marchait ensemble et que tu avais enfilé au complet. Mais là, je me dis que c'est peut-être les zones boue qui ont effacé vos souvenirs. Mais, puis l'autre question que j'avais, tu pensais que tu pourrais avoir été enlevé par des zones boue?
Ben, il efface les souvenirs, j'imagine, je m'en rappellerai pas.
Non, c'est ça. Puis si t'étais un homme boue, j'imagine que tu me dirais pas ça, là.
Non, je dis que non.
Ouais. Mais si t'es le vrai Alex, tu crois-tu qu'ils ont fait des expériences sexuelles sur toi?
Avec des objets en boue, ouais, sûrement.
Oui, hein. OK. Ben, merci.
Ça fut un plaisir. Je retourne dans ma flaque.
Bon, l'enregistrement était un peu plus long, mais je me suis mis à saigner des oreilles après seulement quelques secondes. Donc, j'ai pas voulu prendre de chance pour vous. On a écouté seulement le bout important. Et c'est pour ça que je riais durant l'enregistrement. J'essayais de garder mon calme. Car mon frère, l'homme bout, ben, je pense qu'il m'a démasqué dès le début. Il a su que je l'enregistrais.
Tu parles tellement pas naturel, faudrait que je m'enregistre.
Après cet appel téléphonique avec l'homme boue, ben, j'ai réanalysé notre discussion, tranquillement chez moi, en me protégeant évidemment les oreilles cette fois. Et savez-vous ce que j'ai découvert? C'est quand même assez surprenant. Au début, j'ai commencé par réécouter la bande audio à diverses vitesses.
Moi, je me souviens que j'ai passé en arrière d'un arbre, que j'ai calé. Après ça...
J'ai sorti mon bras parce que j'étais pas tout renfoncé, puis il y avait une épinette d'à peu près
un pied, genre, puis je me suis pogné là-dessus, puis j'ai tiré par rapport à arracher.
En changeant les vitesses, rien d'anormal. Mais quand j'ai cliqué par erreur pour inverser la bande, c'est là que j'ai compris. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait des messages subliminaux sur certains disques quand on les jouait à l'envers. Eh bien, en réécoutant le message à l'envers, j'ai compris pourquoi je m'étais mis à saigner des oreilles. On l'écoute ensemble, sans danger. J'ai appliqué un fil passe-bas pour vous protéger. Ça coupe la fréquence destructrice des hommes boue. On l'écoute.
Choisissez l'apparence de votre destructeur. Quoi est fait? Le voyageur est arrivé.
Incroyable, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut découvrir en retournant simplement une bande audio. Donc, d'après ce que je comprends, il y a une entité de boue qui se nomme Gozer le Gozerien. Et quand on pense à eux, les hommes boue, eh bien, ça leur permet de se matérialiser, de prendre forme. Moi, comme j'ai quand même une force d'esprit assez bonne, car j'ai été pendant longtemps le padawan d'un maître de l'esprit qui m'a montré comment fermer mon esprit aux attaques, alors ça explique pourquoi les hommes boue ont juste réussi à m'envoyer un peu de boue dans les tympans durant l'appel, ce qui a provoqué ce léger saignement dont je vous parlais. Mais bon, méfiez-vous des gens autour de vous. On ne sait jamais à qui on a affaire.
Certains d'entre nous, quand ils rêvent, marchent vers la Voie lactée. D'autres s'envolent vers des sphères merveilleuses où tout port d'attache est ensoleillé et où l'impossible n'existe pas. D'autres, par contre, n'arrivent jamais à franchir les frontières du contexte journalier.
Fini les histoires d'Hombou, revenons à de quoi d'un peu plus léger. Que diriez-vous si je vous disais que Léonard de Vinci est un voyageur temporel? Saviez-vous que ce dernier a laissé derrière lui plus de 5000 pages de dessins, de croquis et de notes?
Yeah, baby!
Aussi brillant soit-il, comment un être humain pourrait-il à lui seul découvrir l'hélicoptère, le scaphandre, le sous-marin ou encore le roulement à billes? Soit il était vraiment un super génie du 15e siècle et vraiment en avance pour son temps, soit c'est une toute autre histoire. Et c'est celle-là que moi, je veux vous raconter. Car, par un hasard incroyable, j'ai une voisine qui ressemble à deux gouttes d'eau, à la Mona Lisa. C'est ma voisine Lisa. L'autre jour, j'étais en route pour aller à la boîte aux lettres. Je m'y rends. Je ramasse les cochonneries que le facteur m'a laissées. Comme d'habitude, rien d'important. Les 2-3 papiers de vendeur Remax, les spéciaux chez Domino Pizza. Bref, je revenais chez moi quand je vois que sur son terrain, sur le terrain de Lisa, il y a des belles fleurs en fleurs. Ben, des fleurs ouvertes. Et c'est des pivoines. Donc, j'arrête pour mieux regarder, car vous le savez, j'en cultive plein chez nous. Donc, je suis intéressé. Puis c'est là que j'entends
« Nya, nya, nya! Cher enfant, qui vous a conduit ici? Entrez, venez chez moi! Il ne vous sera fait aucun mal! »
Bon, ma voisine Lisa est un peu bizarre. Elle approche de 70 ans, elle me prend souvent pour un enfant et m'offre à chaque fois qu'elle me voit d'entrer chez elle pour m'offrir des bonbons. C'est un peu comme dans le conte d'Ansel et Gretel, mais non, c'est pas ça, loin de là. Pendant longtemps, j'ai pensé que Lisa était une genre d'érudit qui vivait recluse chez elle, car elle a des pièces qui sont remplies d'affaires bizarres que je reconnais pas, elle a des livres écrits dans des langues anciennes ou autres que je comprenais pas, et elle collectionne toutes sortes de choses hétéroclites que je ne reconnaissais pas et qui, je pensais jusqu'alors, pouvaient venir de voyages qu'elle avait pu faire autour du monde durant sa jeunesse. Mais non. Ce jour-là, j'accepte son invitation et j'entre chez elle, me disant que je pourrais peut-être lui parler de ses pivoines en dégustant les 2-3 bonbons qu'elle allait sûrement m'offrir. Mais non. Ce jour-là, sérieuse, elle m'a fait passer dans son salon et m'a demandé de m'asseoir. Elle voulait me parler.
« Mon enfant, je veux te parler. Mes jours sont comptés. »
Ah, ça ne va pas, Lisa?
« Non, non, laisse-moi parler, je vais très bien. » Mes jours sont comptés. Je vais bientôt repartir. Leonardo m'a envoyé un message. Il va venir me chercher. Peux-tu t'occuper de mes chats?
Hein? Je ne comprenais rien à son histoire de Leonardo et de chats. Mais en gros, je vous résume vite. Elle m'a avoué qu'elle était une voyageuse du temps et qu'elle attendait son amoureux depuis longtemps et que là, il avait enfin réussi à réparer leur théière à voyager dans le temps et qu'ils se préparaient à venir la chercher, ils devaient ensemble retourner à Fantasia. Bon, oui, j'étais un peu comme vous. Je croyais pas trop à son histoire, une théière à voyager dans le temps. C'est un peu moche, mais bon. J'ai quand même repensé à la série Doctor Who. Eux, ils voyageaient dans une cabine téléphonique. Donc, on peut quand même voyager avec un peu n'importe quoi, j'imagine. Donc, en gros, Lisa voulait que je m'occupe de ses chats. Et elle a pris le temps de m'expliquer que Léonard de Vinci, son copain, s'amusait à se promener un peu partout, dans le temps, mais que là, il était pris depuis un bon bout de temps au Moyen-Âge, mais qu'il avait fini par réparer sa théière, lui permettant de revenir, et qu'il lui avait donc envoyé un message pour lui dire qu'il se préparait à revenir. Et c'est là qu'elle m'a montré, pour que je la croie vraiment, une toile que son copain Léonard avait peint d'elle. Une toile quasi semblable à celle que nous, on connaît sous le nom de la Joconde. Donc, l'autre toile qu'elle m'a montrée, qu'elle avait dans une autre chambre, était quasi semblable, mais sur celle-là, elle avait un gros sourire. Car oui, sur la photo, c'était elle. En gros, ce qu'elle m'a dit, c'est Léonard qui, pour un genre de concours TikTok, avait peint une toile d'elle avec un sourire et la deuxième, la Joconde, avec la bouche fermée. Pourquoi faire ça? Aucune idée. Y a-t-il quelqu'un ici qui comprend à quoi ça sert TikTok? Eh bien non, pas moi. Mais c'est juste ça l'histoire derrière la Joconde. C'est un défi TikTok qui doit avoir lieu en 2045, à ce qu'elle m'a dit. Et comme il voulait faire le défi avec des vieux habits, c'est pour ça que Léonard l'avait amené au Moyen-Âge pour la faire asseoir sur une vieille chaise et lui faire mettre des vieux habits. Mais bon, il semble que lui est resté pris pendant qu'il finissait le dernier tableau. Et elle, elle l'attend, ben, depuis ce temps dans leur maison, juste à côté de chez nous. Eh oui. Mais là, elle est toute énervée car il revient la chercher. Ils doivent partir sur Fantasia pour se régénérer et elle ne veut pas amener ses deux chats, Nestor et Gourmandise. Donc, si vous êtes amateur, juste me le dire, m'envoyer un message là, au Lobster. Moi, dans 3-4 jours, je les relâche dehors. Je suis allergique aux chats, malheureusement. Je les garde au garage pour l'instant. Donc, si ça vous intéresse, ils sont à vous. Il y en a un qui viendrait d'Égypte. Il appartenait à Cléopâtre. C'est un gros chat dodu tout brun. Et l'autre est tout bleu, gros comme un chien. Il viendrait de notre futur. Voilà, Léonard de Vinci et Mona Lisa, voyageurs du temps. Et oui, en plus, Mona Lisa, ben, c'était ma voisine. C'est quand même incroyable. Et juste pour clore l'anecdote, eh bien, je peux vous dire qu'elle m'a donné l'autre copie de la toile. Et je dois vous dire que ma copie de la Joconde, qui sourit, est pas mal plus belle. Et pour ceux qui se questionnent sur la véracité de cette anecdote, souvenez-vous, le théorème du nain barbu, ça peut expliquer bien, bien des choses.
vous avez.
J'ai encore le temps de vous parler d'un des secrets les mieux conservés dans la petite bibliothèque du Vatican. Je spécifie la petite bibliothèque car bien sûr, ils ont une grande bibliothèque qui est l'Archivum Apostolicum Vaticanum où ils gardent plein de secrets, plein de documents sur les apôtres, les papes, sur tous les péchés qu'ils ont commis avec le temps. C'est rempli de parchemins, de manuscrits, de volumes anciens, de bulles papales, donc tous les gros secrets, on pense bien sûr, qui sont conservés dans cette grande bibliothèque. Mais non, il y a aussi une petite bibliothèque secrète qui est dans une petite salle sous la place Saint-Pierre qui est grande comme un conteneur Costco, pour vous donner une idée, et qui est toute tapissée d'un papier peint au motif de tous les Pokémon qui existent et à venir. Et moi, j'ai eu la chance en 92 d'y entrer lors d'un voyage astral que j'ai fait. Et c'est dans cette bibliothèque qui n'ouvre jamais ses portes, car il n'y a pas de porte en fait, que sont conservés 1722 documents, livres ou artefacts qui ne doivent jamais être vus, entendus ou lus. Par exemple, c'est là-dedans qu'on retrouve la barbe et le scrotum de Jésus. Il y a aussi les jambes de Kenny, une main de Michael Jackson dans un gant blanc et les restes du vagabond empaillé. Sur une tablette de cette petite bibliothèque insolite, il y a des petits pots maçons qui sont entassés. J'ai pu voir une confiture de framboises et de mangue qui aurait plus de 2000 ans. Il y a aussi un bocal avec un doigt de Zira, la vétérinaire chimpanzée de la planète des singes. C'est d'ailleurs de ce bocal que proviendrait l'épidémie de variole simienne qui se répand présentement. Bref, c'est plein d'affaires hautes, et lors de ce voyage astral que j'avais fait suite à l'ingestion de lobster hallucinogène, j'avais pu prendre sur une tablette un vieux bouquin, je m'en souviens encore, un gros volume avec une couverture de cuir végétal. Il était posé sur le jeu original de Jumanji. C'était le livre de Pachamama. Pour ceux qui ne sont pas familiers,
la Pachamama, terre-mère, est étroitement liée à la fertilité dans la cosmogonie indienne. C'est la déesse terre dans certaines cultures et elle correspond à l'ancien empire inca. Elle domine toutes les croyances et les religions naturistes et elle est invoquée en tant que patronne de tout ce qui existe sur et sous la terre.
Bref, Pachamama, c'est du gros stock. Et comme j'ai eu la chance lors de mon voyage astral de lire et de mémoriser ce livre, je peux vous livrer un de ses secrets. Juste un. Car c'est comme un livre de prédictions et de savoir qui est très détaillé. Et je pense pas que vous êtes prêts à entendre tous les secrets qu'il y a là-dedans. Mais j'en ai retenu un pour vous. Une histoire incroyable, qui par un hasard incroyable, m'implique aussi. Et pas de stress, il n'y a pas de fin du monde, non. Rien en lien avec la fin du monde, pas de feu dans le ciel avec des pluies d'étincelles là, qui détruiraient la Terre. Non, c'est vraiment tout autre. C'est en lien avec la miniaturisation. Je vous raconte ce que j'ai appris. Voici l'histoire. Le Canada aurait développé depuis 6 mois, en secret, une technologie qui permet à la matière d'être miniaturisée grâce à un procédé qui rétrécit chaque atome séparément. Est-ce que c'est wow? Oui, mais pas tant que ça. Car pour l'instant, cette technologie serait d'un intérêt limité car les objets reviennent à leur taille initiale après environ 1 heure ou plus, donc 60 minutes. Mais, car il y a un mais, il y a un scientifique ukrainien qui travaillait lui aussi sur ce procédé à l'Université nationale de Kiev qui a découvert comment rendre le rétrécissement permanent et réversible. Donc là, ça serait une révolution incroyable. Et ça explique bien des choses. Ça vous met sûrement la puce à l'oreille. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et oui, c'est pour mettre la main sur ce scientifique qui se nomme Jane Baines qu'il y a eu invasion. Car imaginez comment on peut devenir puissant si on contrôle la miniaturisation. Tu peux transporter une armée dans un plat Tupperware et le déployer où tu veux. Tu peux transporter des produits pour quasiment rien. Il y a plein d'applications à cette technologie. Et là, ce scientifique qui a eu la sagesse de se sauver au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a malheureusement eu un accident au cerveau. Rien de trop glorieux cependant comme accident. En gros, c'est deux de ses beaux-frères qui, pour sa fête, ont voulu lui faire la bascule, mais ça a mal tourné. Augustin, l'un d'eux, aurait mal tenu les jambes de Jane durant la bascule, ce qui aurait déséquilibré l'autre taouin de beau-frère. Bref, ils l'ont échappé et il s'est cogné la tête sur une grosse roche et est dans le coma depuis ce temps. Coma profond, avec caille au sang, rien de jojo. Et là, le gouvernement du Canada, qui est impatient de lui sauver la vie afin qu'il puisse partager le secret de la miniaturisation illimitée, l'a fait venir ici chez nous pour essayer de le soigner. Et par un hasard incroyable, moi qui la semaine passée était en vacances et se trouvais dans le quartier chinois à manger une bonne soupe tonkinoise au restaurant Faubac sur Saint-Laurent, je me suis trouvé à me faire servir ma soupe par le jeune frère d'un des scientifiques faisant partie de l'équipe qui était chargée de sauver Jane. Et parle, mange, jase avec le jeune frère et c'est là qu'il me raconte une partie de l'histoire et me dit qu'il leur manque un ingénieur informatique dans l'équipe. Et paf, je fais le lien avec son histoire et ce texte que j'ai lu dans le livre de Pachamama. Et donc, tout de suite, je me suis proposé pour les aider. Et là, tout s'enchaîne très vite pour sauver Jane. Je me suis rendu à la Polytechnique directement. Ben, j'ai bien sûr fini ma soupe, là, ça n'aurait rien donné de la gaspiller. Donc, arrivé à la Polytechnique, où tout de suite, après avoir dit que je venais de la part du jeune frère, on m'a fait un briefing. Je vous résume le tout rapidement. Pour sauver Jane et résorber le caillot qu'il y a dans le cerveau, ils ont formé une équipe de scientifiques comprenant plein de gens. Par exemple, il y a le capitaine Bill Owen, le docteur Michael, le docteur Peter Duval et moi-même en tant qu'assistant informatique. On va embarquer à bord du Proteus, un sous-marin qui sera miniaturisé grâce à la technologie que je vous ai parlé plus tôt. Et ensuite, on va être injecté dans B. Mais, en raison de la durée du procédé de miniaturisation, le 60 minutes max dont je vous parlais, on ne disposait que d'une heure pour trouver et détruire le caillot avant une mort certaine. Oui, j'ai frôlé la mort, car une fois que notre sous-marin miniaturisé commencerait à reprendre sa taille normale, on deviendrait la cible du système immunitaire de Baines et on serait détruit. En tout cas, c'est ce que le docteur Duval m'avait dit. Donc c'est ça, je vous passe certains détails comme la combinaison sexy que j'ai dû enfiler, mais on a été rapetissé et injecté dans Jane. Notre mission, c'était simple, on devait se rendre directement au cerveau, mais à cause d'un accident de parcours, on a dû passer par le cœur, ce qui nous a quasiment mené à la catastrophe, car les battements du cœur étaient si forts qu'ils ont failli détruire notre vaisseau. Mais grâce à l'intervention des gens restés à l'extérieur, qui ont arrêté le cœur de Jane le temps qu'on passe, on a évité la catastrophe. Ensuite, manquant d'oxygène, on a dû faire une pause par les poumons pour se réapprovisionner en oxygène qui allait manquer. Là, vous vous demandez pourquoi on manquait d'oxygène. Moi aussi, à ce moment-là, je me le demandais. Quoi? On n'avait pas prévu assez d'oxygène pour une heure? C'est quoi ça? Eh bien, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait un espion russe qui avait réussi à embarquer avec nous. Oups! Petit imprévu. Et lui avait pour mission de tout faire pour faire échouer la mission. C'est à cause de lui si on a manqué la route directe vers le cerveau. C'est à cause de lui si on a manqué d'oxygène. C'est un peu comme l'espion là, qui était à bord de la fusée de Tintin quand il est allé dans l'espace. Mais heureusement, mais oui, j'ai réussi à le démasquer à temps. C'est sûr que de le voir taper avec un marteau sur nos réserves d'oxygène m'avait mis la puce à l'oreille. Bref, beaucoup d'obstacles ont gêné notre voyage jusqu'au cerveau de James, mais on a réussi avec un laser qui était attaché au sous-marin, on a réussi à détruire le caillot de sang, et finalement, comme on manquait de temps avec tout ce qui était arrivé, pour ressortir par les voies naturelles, j'ai eu la bonne idée pour nous faire ressortir, de nous amener dans les yeux qui étaient tout proches du cerveau, d'où on a pu ressortir dans une larme via un canal lacrymal. Tout ça pour vous dire que James va mieux, que notre équipe est revenue indemne de la mission et que c'est pour ça que la technologie de la miniaturisation s'en vient prochainement. Ça va changer vos vies. Imaginez, le gouvernement du Canada prévoit déjà de relier toutes les villes du Canada par des tuyaux d'aluminium faits par l'Alcan du Saguenay dans lequel on va pouvoir propulser des balles à 3000 km/h. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces bulles? Ben vous et moi, on va pouvoir se faire rapetisser pour voyager rapidement partout. Fini le trafic en ville, fini les billets trop chers pour prendre l'avion. Une fois rapetissé, on ne coûtera plus rien à transporter. Bref, je vous laisse imaginer toutes les utilisations de cette technologie. Ça va changer vos vies d'ici quelques mois. Surveillez l'annonce, la nouvelle devrait sortir prochainement dans tous les tabloïds et vous pourrez dire que c'est Lobster 120.0 qui vous en avait déjà parlé. Voilà, je tire ma révérence là-dessus après vous avoir révélé ce grand secret qui, grâce au théorème du nez barbu, est, vous le savez, très vrai et plausible. Sur ce, bonne fin de Lobster et n'arrêtez jamais de rêver et d'imaginer toutes sortes d'histoires dans votre tête. Bonne fin de Lobster.
Moi, je me souviens que j'ai passé en arrière d'un arbre, que j'ai calé. Après ça, j'ai sorti mon bras parce que j'étais pas tout renfoncé, puis il y avait une épinette d'à peu près un pied, genre, puis je me suis pogné là-dessus, puis j'ai tiré pour pas arracher.
Thank you.
poignée là-dessus, là, j'ai tiré par rapport à la main. J'ai passé de l'arrière en arrière, que j'ai calé. Moi, je me souviens que...